de notre colloque atelier, puisque, comme je l'ai déjà dit hier, il s'agit d'un chantier, un chantier aux deux sens du terme. Un chantier, c'est un lieu où on travaille, mais c'est aussi un lieu qui, à certains égards, est désordonné. Donc, nous allons aujourd'hui présenter un ensemble d'interventions qui sont, vous le verrez, à la fois des présentations de matériaux, d'outils et de résultats. Donc on a vraiment une gamme de communication. Et l'essentiel pour nous, et j'espère pour vous, c'est d'engager une discussion à partir de ces différents éléments. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, évidemment, dans les moments qui sont dévolus à cette fonction, c'est-à-dire après l'intervention de chacun. Vous pouvez faire des gros yeux, vous pouvez serrer les dents, mais attendez quelques minutes. Voilà. Nous mangerons pour les intervenants, et si on est aussi peu nombreux pour la majorité de la salle, à la cantine de l'école des hautes études, qui a une réputation, vous savez, dans les universités américaines, il y a des classements, et suivant l'alimentation, on pourrait dire qu'on est dans la moyenne, disons, des universités françaises. Donc, point de gastronomie pour nos amis lyonnais. Sans plus tarder et plus sérieusement, je passe la parole à Jean-François Baird, qui a joué dans ce programme un rôle non seulement de coordinateur très précieux, mais également de moteur dans un certain nombre de dossiers et d'investigation, et qui plus est un moteur qui ne se contente pas d'ouvrir la porte, mais qui a pris en charge un certain nombre de tâches aussi qui résultent de ce type de programme, à savoir des tâches matérielles lourdes, du type numérisation, du type entrée d'éléments dans des bases de données, du type aussi mise en ligne, etc. etc. Donc je voulais ce matin à la fois remercier Jean-François de ce qu'il nous a donné, ce qu'on a pu partager grâce à lui, et puis puisque Luca est derrière la caméra ce matin, aussi le remercier. Voilà, Jean-François, c'est à toi. Un peu de temps.
Non, je vais essayer de faire court. Donc, j'aimerais en fait ce matin vous présenter en quelques minutes ce projet NR et en même temps la journée. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'articuler la présentation du projet tel qu'on l'a déposé en 2007 et ce qu'il en résulte aujourd'hui dans cette journée de bilan entre guillemets. Et ce, en vous donnant à voir quelques-uns des différents chantiers qui nous ont occupés à Paris et à Lyon depuis maintenant 3 ans. Alors la première chose peut-être que je voudrais rappeler ou indiquer, c'est qu'en déposant ce projet en 2007, nous nous sommes explicitement situés dans un profond renouvellement de l'histoire intellectuelle qui correspond à l'évolution de l'histoire des idées vers une histoire culturelle des pratiques intellectuelles, ouverte à la singularité des textes et aux conditions de leur production. C'est en grande partie ce qu'on a pu écouter hier après-midi avec les interventions de Jean-Louis Fabiani ou Christian Jacob, à qui il faut aussi ajouter les travaux de Chartier, de Bruno Latour, de Michel de Certeau, mais on a fait le Panthéon hier après-midi, donc je ne vais pas y revenir. Alors, cette histoire des pratiques intellectuelles, elle se pense et elle se fait, et c'est très important pour nous, sous les influences variées et croisées de l'histoire des sciences, de l'histoire du livre, ou encore de l'histoire des institutions de savoir. Donc on est aussi au milieu d'un champ pluridisciplinaire ou interdisciplinaire. Et ça, on a essayé de le maintenir tout au long de ces 3 années, parfois avec difficulté, avec des tirages et des tiraillements, mais on a toujours essayé de maintenir ces points de vue différents sur ces chantiers et ces objets que sont des archives, en tout cas pour Foucault. Alors, dans le cas plus précis de Foucault, nous avons décidé donc d'enquêter sur les inscriptions multiples de son activité de philosophe, sur ces pratiques quotidiennes, ces outils graphiques et intellectuels, en entrant littéralement dans le laboratoire foucauldien par le biais des archives. Ça, c'est encore une spécificité. On l'a vu hier, il y a différentes possibilités. On aurait pu peut-être penser à faire une ethnographie, mais nous ne l'avions pas fait. La seule possibilité qui nous restait, c'était effectivement de passer par le biais des archives, ce qui, méthodologiquement, pose un certain nombre de problèmes aussi. Très concrètement, ça veut dire que nous avons en tout cas pris au sérieux l'ensemble des traces qui témoignent de ces pratiques de lecture, ces prises de notes en bibliothèque, ces manières d'archiver, mais aussi la manière dont il cite, dont il construit ses bibliographies, dont il construit un cheminement de pensée, les choses étant articulées entre elles. Je signale immédiatement aussi, mais Philippe l'a fait en préambule hier, que nous n'avons pas voulu atteindre la pure érudition sur Foucault et son œuvre, mais d'abord chercher à produire des outils de recherche qui peuvent devenir des instruments à la fois d'orientation et de circulation pour d'autres recherches sur Foucault, mais nous l'espérons grandement pour d'autres recherches sur d'autres intellectuels, philosophes, non-philosophes, etc. etc. Très concrètement, c'est un terme qui va revenir beaucoup aujourd'hui. Voilà, on va vous montrer ce qu'on a fait. Donc très concrètement, ça veut dire que nous avons dû réfléchir, et ça depuis le début de la recherche en 2007, nous avons donc dû réfléchir et mener un important travail d'inventaire. Et c'est ma première image, parce que c'est quand même ça qui a été à la base de cette ANR, qui est une ANR corpus, je le rappelle, on ne l'a pas dit encore, mais c'est une ANR corpus. Donc une réflexion autour de la question des inventaires. Pourquoi ? Parce que cette recherche a fait émerger un certain nombre d'archives qui étaient jusque-là inédites, en tout ou en partie. Et si on veut les donner à voir à la communauté scientifique, il faut passer par effectivement un travail d'inventaire. Ce qui veut dire qu'on a dû élaborer une méthode de travail en commun avec des archivistes, ce qui n'est pas chose facile la plupart du temps pour des chercheurs en sciences sociales. Donc là aussi, c'est l'aspect pluri ou interdisciplinaire qui a été tout de suite à la source de ce travail de recherche. Là, vous avez par exemple le travail d'inventaire autour des archives audiovisuelles donc qu'on a fait en partenariat avec l'INA. Donc, c'est des inventaires qui vont être disponibles via un site internet. On vous donnera l'adresse tout à l'heure. Voilà. Mais c'est un des nombreux inventaires que nous avons fait. Alors, choisir la table de travail du philosophe comme lieu d'enquête a aussi nécessité d'identifier, de relever, de classer un grand nombre d'éléments souvent minuscules à qui il fallait donner sens. Philippe en a donné un exemple hier. Par exemple, cette fiche de non-rendu de livres à la bibliothèque de l'ENS, qu'est-ce qu'on en fait au milieu de toute une recherche qu'on a voulu faire autour des bibliothèques ? Finalement, nous n'avons que cette trace-là. Donc, il faut bien donner un sens aussi à ce document. Et donc, pour donner un sens à ces éléments souvent minuscules, nous avons dû avoir recours à des approches très différentes qui sont à la fois issues de la philosophie pour la lecture des textes, la sociologie des sciences pour la contextualisation, les études littéraires, l'anthropologie historique des archives et l'histoire de la culture écrite. De ces lectures possibles, en tout cas que nous avons tenté de faire, nous avons fait émerger trois moments qui sont aussi trois scènes de pratique pour Foucault. La scène de la consultation, la scène de l'extraction et la scène de la restitution. Alors, consulter, qui serait la première scène ou le premier moment des pratiques. Alors, il nous a semblé effectivement important en premier lieu de faire le point sur l'ensemble des traces conservées des journées de travail de Foucault dans les multiples bibliothèques qu'il a pu fréquenter, de son entrée à la rue d'Ulm jusqu'au Collège de France. Alors c'est une enquête qui est encore en cours, à la fois parce que les lieux sont multiples, bibliothèque de l'ENS, bibliothèque nationale, bibliothèque du Solchoir, ou encore la bibliothèque de la faculté de médecine pour ce qui concerne les sciences de la clinique, mais aussi du fait de l'éclatement géographique des lieux, parce qu'il ne faut pas oublier que Foucault a aussi consulté dans des bibliothèques à l'étranger, la New York Public Library, la bibliothèque de l'Université de Berkeley, l'inventaire est en ligne. La Carolina à Uppsala, etc. Donc il y a toute une série de bibliothèques à l'étranger. Donc il faut, alors pour ça, il faut prendre contact avec les gens, leur demander, etc. etc. Ce qui aussi demande une temporalité bien plus importante que ce qui était prévu à l'origine et au dépôt du projet de recherche. Alors cette première partie de l'enquête autour des bibliothèques a été suivie et va être suivi d'une recherche sur la bibliothèque de travail conservée par Foucault, recherche qui intègre aussi la question des livres reçus ou des tirés à part. Donc, je vous montre simplement voilà, des photographies que l'on a pu faire grâce à Daniel, que l'on a remercié et que l'on va continuer de remercier toute cette journée pour sa bienveillance. Et voilà, donc voilà un travail qu'il va falloir mener.
C'est un élément essentiel dans ce dispositif de travail. C'est, et je n'ai pas salué tout à l'heure, c'est vraiment que nous avons travaillé, je ne dirais pas en collaboration, mais parce que Daniel est toujours resté à distance du travail, mais disons avec son soutien et avec un certain nombre, je dirais la sympathie d'un certain nombre de témoins. Et de ce point de vue-là, je remercie Jean-Pierre Péter d'être venu ce matin écouter. Je crois qu'Arlette Farge va venir dans la matinée aussi.
Excuse-moi. Non, je t'en prie, tu peux m'interrompre quand tu veux, tu le sais très bien. Donc voilà, un exemple de tirés à part reçus par Foucault. Donc là aussi, il faudrait faire un travail déjà d'inventaire, mais aussi d'analyse, ne serait-ce que pour comprendre dans les réseaux dans lesquels Foucault se situe à son époque. Ça, c'est un travail peut-être intéressant à mener. Alors ça, c'est ce premier moment, cette première scène que l'on a appelée consulter. On peut trouver un autre mot, mais pour le moment, nous l'avons appelée comme ça. La deuxième scène, celle de l'extraction ou extraire, là, ce qui nous a plus particulièrement intéressé et ce qui va faire le gros de cette journée, ce sont les dossiers. De deux types, dossier documentaire, par exemple un dossier documentaire que Daniel nous a gentiment montré lors de l'exposition que nous avions réalisée l'année dernière, si je ne m'abuse, à la bibliothèque municipale de Lyon, autour du texte de Foucault, La vie des hommes infâmes, j'y reviendrai. Donc c'est un dossier documentaire sur les médecins fous que Foucault a constitué en 1971. Voilà. Qui est fait de coupures de presse, en fait, entièrement de coupures de presse, autour d'une affaire plus particulière. Voilà, je vous donnerai des détails plus tard si ça vous intéresse. Donc, soit des dossiers documentaires, soit des dossiers préparatoires. Et là, on entre dans ce qui est vraiment le cœur du cœur de la recherche. Nous arrivons sur les dossiers préparatoires aux mots et les choses. On entendra Luca et Pascal et Samantha, tout à l'heure, en début d'après-midi, nous expliquer comment ce travail a été effectué autour des fiches préparatoires aux mots et les choses. Alors, il s'agit de plus de 800 fiches qui ont été réparties en fait, par Foucault dans 5 dossiers. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, elles témoignent, ces fiches, et cette manière de classer les fiches dans des dossiers, ça témoigne chez Foucault d'une manière de cerner un domaine, la grammaire générale, la philosophie du langage, l'histoire naturelle, l'économie, domaine qu'il pouvait connaître par avance ou pas. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'il découvre un champ de savoir. Ça témoigne aussi d'une manière de baliser un champ de recherche par la bibliographie qu'il construit, et ça permet aussi d'organiser l'ordre du travail, c'est-à-dire par quel livre il passe pour arriver à l'élaboration d'un concept tel qu'il sera écrit dans Les mots et les choses, par exemple. Donc là, on peut travailler sur cette question-là. Alors, ces dossiers préparatoires représentent un observatoire privilégié sur la façon de travailler de Foucault. Ça, on en était convaincu dès le début, on en est de plus en plus convaincu. Mais un observatoire à partir du moment où il a été possible de prendre connaissance autrement, et j'insiste sur le terme autrement, de l'ensemble du dossier, et ce grâce à un certain nombre d'outils numériques. Nous n'aurions pas pu faire, et vous verrez avec Luca et Pascal, nous n'aurions pas pu arriver à ces conclusions sans ça. C'était quelque chose d'obligatoire pour pouvoir prendre connaissance de cet ensemble de dossiers. Alors, aborder autrement quoi, et c'est ça qui est intéressant, le choix des sources, les techniques de lecture et de découpage des textes, le rapport entre bibliographie primaire et bibliographie secondaire, et finalement essayer de comprendre le cheminement de pensée qui a conduit Foucault à la construction de ses thèses et de ses concepts. Donc, c'est ça que nous permet l'outil numérique. Donc c'est quand même pas anodin. J'insiste beaucoup dessus. Deuxième analyse de dossier qui n'est plus les mots et les choses, mais qui est cette fois-ci le dossier et les archives qui sont autour du désordre des familles. Alors je vous montre, avant d'arriver, je vous montre l'ouverture d'un dossier des mots et les choses encore. Voilà. Vous voyez que dans le dossier, à l'intérieur, il y a des sous-dossiers aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Voilà. Voilà le titre d'un dossier, analyse des richesses. Donc voilà un autre dossier qui nous a intéressé et qui a intéressé plus particulièrement Philippe. Donc, les archives du désordre des familles, ouvrage que Foucault coécrit en 1982 avec l'historienne Arlette Farge pour la collection Archives de chez Gallimard. Alors, dossier qui a fait lui aussi objet d'un traitement numérique à part entière. Là, vous avez les archives d'Arlette Farge qu'elle a conservées autour de l'ouvrage. Alors, c'est ce qui a permis en fait ce travail, ce traitement numérique qui n'est pas encore terminé, mais qui est bien avancé. C'est ce qui a permis, Philippe vous le dira juste après moi, d'examiner d'une part la pratique de sélection des matériaux dans les archives et le rapport de ça avec les modes d'édition. Et peut-être, mais ça je laisserai Philippe le soin de le dire, de découvrir l'un des noyaux durs du travail foucaldien. En tout cas, je pense que Philippe l'a pensé comme ça. Voilà la boîte d'Arlette, travail avec Michel Foucault, 1980-1981. Donc ça, c'est un deuxième dossier qui nous a retenu pendant quelques mois. Troisième chantier autour de ce moment de l'extraction. L'étude et l'inventaire, toujours, des références de Foucault sur les pères de l'Église. Alors, une autre recherche menée par Philippe Chevalier, qui viendra nous en parler en toute fin d'après-midi, donc a été menée sur les références de Foucault aux textes des premiers siècles chrétiens. Ce corpus d'ouvrages présente en effet plusieurs caractéristiques originales, à la fois dans la constitution et dans la manière dont Foucault s'en empare. Il marque en tout cas, et c'est ce que donc, nous dira Philippe Chevalier, un tournant dans les pratiques de lecture et de citation de Foucault, qui annonce les travaux sur l'Antiquité gréco-romaine avec les deux derniers volumes de l'histoire de la sexualité. Foucault s'affronte ici à des textes qui n'existent qu'à l'intérieur d'un ensemble éditorial déjà constitué et même fortement charpenté. Et on peut dire qu'à l'opposé du nomadisme bibliographique de ses premiers travaux, Foucault choisit là de respecter une unité éditoriale qui est aussi une unité confessionnelle, les sources chrétiennes. Et il n'introduit à la marge que des textes marginaux ou hérétiques, comme la gnose, et mentionne à peine la littérature apocryphe. Donc ça aussi, ce rapport-là est intéressant, et nous avons essayé, en tout cas Philippe Chevalier a essayé de s'intéresser à ce problème. Troisième scène, la restitution, restituée. Là, ce qui nous a intéressé, c'est effectivement la pratique de la bibliographie. Pratique intéressante, déjà parce que Foucault a publié très peu de livres comprenant une bibliographie explicitement donnée. Naissance de la clinique, par exemple, en fait partie. On a une bibliographie à la fin de l'ouvrage. Alors, il s'agissait dans ce cadre d'examiner cet objet à part qu'est la bibliographie, d'en étudier la composition et de voir quel type de stratégie y est à l'œuvre. Alors, nous avons, par exemple, pu avoir accès grâce à la BNF, puisque les manuscrits y sont déposés, les manuscrits des deux derniers volumes de l'histoire de la sexualité et voir plus précisément la manière dont Foucault pensa ses notes. Là, vous avez deux exemples de notes de références bibliographiques et de notes de bas de page. Alors il apparaît, mais là Foucault n'est pas une exception, et peut-être que là on retrouve cette question de la singularité qui avait été posée hier. Donc il apparaît dans le champ philosophique, de manière très générale, que l'on ne peut pas ou doit pas citer n'importe quoi ou n'importe qui, et qu'on ne saurait le faire n'importe où, à n'importe quelle étape du discours. Donc, c'est ça aussi qui était intéressant de mettre en avant. Là vous avez une deuxième page où vous voyez qu'il y a eu un rajout, l'encre du stylo n'étant pas la même, etc. Donc on a pu, à partir de là, essayer de comprendre un peu mieux la manière dont s'étaient construites les notes pour les deux derniers volumes de l'histoire de la sexualité. On touche là à la question, finalement, des stratégies de dédisciplinarisation des citations par Foucault. Et par exemple, les usages de la citation littéraire. On en a un tout petit peu parlé hier, après l'intervention de Patrick Boucheron. En effet, il nous a paru aussi intéressant de nous arrêter sur la manière dont Foucault a continuellement dédisciplinarisé la citation, en transformant les textes philosophiques en fragments d'archives historiques, mais aussi en transformant les archives, au sens premier et entier du terme, en textes littéraires, comme par exemple dans La vie des hommes infâmes. Voici la première page du dossier. Cette manière de faire pivoter la palette des modes de lecture, c'est ça qui nous a intéressés, et qui a été en partie la base d'un travail collectif sur ce texte de Foucault, et qui a donné lieu à la publication, on en a parlé hier, je crois, d'un ouvrage intitulé « Archives de l'infamie ». Pourquoi collectif Maurice Laurence ? Vous poserez la question à Philippe, bien entendu. Une autre approche autour de cette question de la bibliographie a été également menée, cette fois-ci par Judith, qui nous en parlera dans la deuxième partie de cette matinée. Que faire et que dire des auteurs absents ? Mais non pas en tentant une cartographie à l'envers des références foucaldiennes, selon laquelle tout nom n'apparaissant pas devrait immédiatement être reconnu comme essentiel, mais parce que cette absence dénote chez Foucault d'une réflexion sur son propre ancrage dans l'histoire de la philosophie et d'un jeu avoué dans sa politique personnelle de citation, de référence et de commentaire. Donc c'est dans ce sens-là qu'il était intéressant de se poser la question des auteurs absents. Autre dossier qui va être évoqué aussi cet après-midi, cette fois-ci par Mathieu, le Foucault lecteur qui pratique l'exercice du compte-rendu, de lecture. Les comptes rendus sont chronologiquement la première des formes utilisées par Foucault. Voilà, il suffit d'ouvrir les 10 écrits et le premier volume pour se rendre compte de ça. Et je ne déflorerai pas un secret en disant que son tout premier texte publié est un compte rendu. Et donc ces comptes rendus correspondent à la période où Foucault appartient aussi au comité de lecture, au comité de rédaction de revues, dont la revue critique. Donc c'est intéressant aussi de voir, d'inclure ça dans une pratique et dans un engagement autour de revues. Voilà. Autre dossier, le Foucault professeur au Collège de France. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les cours peuvent être considérés comme un véritable laboratoire de l'œuvre. C'est peut-être ce que nous montrera Michel Sennelard aussi en deuxième partie de matinée. En tout cas, les cours de Foucault au Collège de France confrontent le lecteur à une réflexion en perpétuelle mutation. Et le lecteur actuel des cours publiés doit porter attention au déplacement permanent de la conceptualité et la problématique mobilisée par Foucault. Le travail requis des éditeurs pour l'établissement même des cours apporte de nombreux éléments. Par exemple, la question de la comparaison, lorsque cela est encore possible, entre les tapuscrits et les leçons effectivement prononcées. Là, vous avez un dossier de cours de 1980, où l'on voit, donc ça c'est le manuscrit du cours, où l'on voit effectivement la manière dont Foucault, mais je pense que Michel nous en parlera, fait un certain nombre de corrections directement sur le manuscrit. Et il faudrait donc penser au rapport de la lecture. Alors, nous avons également pu aborder d'autres questions qu'il reste encore à examiner en détail, comme par exemple la pratique de la traduction et la manière dont Foucault témoigne d'une grande attention à la langue ainsi qu'à l'importance conceptuelle des termes qu'il emploie. Il ne s'agit pas seulement pour lui de bien traduire un certain nombre de concepts, mais d'abord de bien désigner le concept qu'il va utiliser. La question de l'édition aussi. Parce que Foucault inaugure, par exemple, une nouvelle collection chez Gallimard qu'il va appeler « Les vies parallèles », dans lesquelles il va publier les mémoires d'Herculine Marbin, en 78, si mes souvenirs sont bons. Ou alors, cette autre tentative avortée, à ma connaissance, de créer une collection chez Stock, qui est une collection en fait, de traductions de classiques anglais qu'il avait. Voici la première page. Et la deuxième, vous voyez par exemple qu'il avait l'intention de traduire Boswell, Hubert Dreyfus, Jana King, Franz Schurman, etc. Donc il y avait une proposition, et vous voyez la signature en bas, Michel Foucault, Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut. Tout ça aussi, c'est des éléments peut-être intéressants à reprendre, toujours dans cette question des pratiques intellectuelles. Jean-Claude ? Je ne sais pas. Au bout de la chaîne aussi, ce qui était intéressant, et on a pu y avoir accès, c'est la réception des ouvrages de Foucault. C'est-à-dire, si on commence à s'intéresser à la manière dont Foucault travaille, on peut voir aussi ce que ça a donné à l'autre bout et à la réception de ces ouvrages. Et effectivement, par le biais de Gallimard, nous avons eu accès au dossier de presse de réception des ouvrages de Foucault. Là, j'ai quelques exemples autour des mots et des choses, qui a donné lieu à un autre travail collectif lié à cet ANR, autour de la réception des mots et des choses. Et je crois que vous en avez parlé hier, mais nous ne faisons pas de publicité, excusez-nous. Mais
Ils sont épuisés,
voilà, il n'y en a plus. Mais attendez le prochain sur Surveiller et punir, qui sort à la fin du mois d'octobre, qui est sur le même modèle, un travail de réception. Donc à l'autre bout de la chaîne, la réception, je les ai placés là, mais on peut les placer peut-être avant ou après ou quand vous voulez, ce qu'on a appelé les témoins de lecture. Foucault, en fait, aussi a eu pour plusieurs de ses chantiers de recherche des informateurs privilégiés, des collègues, on a évoqué le nom d'Ado ou de Paul Venn hier, mais aussi des éditeurs, des étudiants et amis qui ont souvent joué un rôle important dans la découverte de certains textes. Et en fait, nous avons essayé de rassembler cette mémoire des témoins de lecture en effectuant un certain nombre d'entretiens. Pierre Nora, Daniel Defer, Arlette Farge, François Ewald, Jean-Pierre Péter qui est ici. Alors, pour des raisons techniques et juridiques, il est très compliqué on devait normalement vous montrer un montage fait des différents entretiens que nous avons effectués. Mais certaines choses étant compliqué, nous les avons archivés, nous n'avons pas eu l'autorisation par les personnes qui ont fait les entretiens de pouvoir vous donner à voir l'ensemble des entretiens. Donc, tous ces entretiens sont archivés, ils seront gardés, conservés dans le fonds Foucault à l'IMEC, ils seront disponibles à partir du moment où vous aurez l'autorisation de la personne, mais voilà. Donc, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous passer 2 minutes de l'entretien que Philippe a réalisé avec Jean-Pierre Péter, si celui-ci est d'accord. Si vous êtes d'accord, d'accord. Toujours, après ce que je viens de dire. Oui.
Oui, pardon. Excusez-moi. Les annales des jeunes publics.
Directement,
oui.
D'accord, donc par le mémoire.
Oui, et c'est là que Castel ou moi nous disons, mais y aurait-il dans les annales d'hygiène, etc. Et il dit, bah, j'ai ça, j'ai tout fait photocopier. Et il revient la fois suivante en disant, oui, il y a, bon. Mais c'est moi qui dis, parce que je suis historien, procès d'assises, donc un dossier aux archives départementales du lieu. Donc, Calvados. Mais l'ennui, c'est que cette ville a été bombardée et que les habitants racontent qu'on voyait des feuilles d'archives qui volaient au-dessus de... Bon. Alors, j'y suis allé en me disant, pourvu que... Et chance, pourvu que oui.
C'est quand,
oui, oui. Il y avait le truc. Bon. Mais c'était une époque où je venais de divorcer, j'avais plus un rond. J'ai même été amené à demander à Foucault de me rembourser mon aller-retour et de ma nuit passée à l'hôtel. J'avais pas un rond. J'ai honte encore. J'aurais dû demander à d'autres amis. Est-ce que le collège a des sous, là bon. Mais je pouvais pas rapporter le manuscrit. J'avais commencé à le copier, mais ça prend un temps fou. Puis il y avait tout le dossier. Je regardais aussi. Bon, non. J'ai pu rester qu'une après-midi, une matinée. Je suis rentré ensuite. Mais j'ai fait faire le transfert à la nationale, aux archives nationales. Pas de chance, une grève, et on est resté un mois sans avoir le texte. C'était malheureux comme les pierres. Et ensuite, bon, on a tous eu le texte et découvert l'histoire de la famille. Alors, bon.
Donc ensuite, vous allez tous aux Archives nationales consulter ou il y a quelqu'un
qui... J'ai fait faire une photocopie et j'ai fait photocopier la photocopie
de façon
du manuscrit.
Ah oui, aujourd'hui.
Mais bon, ça leur plaisait pas.
On faisait des photocopies à l'époque des manuscrits.
Ah oui, j'avais obtenu ça. Avec le fait que
Foucault,
je disais pour Foucault,
oui, pour Foucault.
Oui. Non, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut même plus toucher au manuscrit.
D'accord, donc le manuscrit vient, le dossier complet.
Tout le dossier vient.
D'accord, et vous demandez une copie de l'ensemble du dossier.
Je demande une copie de l'ensemble du dossier.
D'accord. Et ensuite, l'école,
notre école a fait son boulot, c'est-à-dire que j'ai pu faire transcrire. Et j'ai passé 2 mois à revoir la transcription avec un ou deux amis. Madame machin, la vieille dame naturaliste. Oui, on a bossé là. Par rapport aux autres, on trouvait que les autres, ils foutaient rien.
Sur jet léger.
Oui. Mais la dernière, là.
Et Marie-Vonne de Saison.
Oui, Marie-Vonne de Saison aussi nous a aidés quand même. Sur la transcription qui était faite par une bonne secrétaire de l'école, enfin qui. C'est lisible, mais il y a des trucs où elle ne comprenait pas bien. Donc, bien redonner.
Mais là, il y a déjà.
Il s'agit, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais il s'agit du dossier Pierre Rivière. Vous l'avez. Voilà. Vous l'avez bien compris. Alors, je terminerai juste, je prendrai une minute. Oui, c'est un effet de l'ordinateur. Non, vous inquiétez pas, ça sera monté différemment, mais là, c'est parce que...
Ça, c'est le rush.
C'est le problème technique, c'est que les ordinateurs ne sont pas équipés comme il faut, etc. Ne vous inquiétez pas pour le son, ça sera parfait. Alors, je terminerai juste par dire que... Il est d'autant plus difficile de dresser un bilan que nous ressortons de cet ANR Corpus avec plus de questions finalement qu'à son commencement, ce qui est souvent le cas pour des recherches, mais là plus particulièrement. Alors bien entendu, et Philippe l'a rappelé, nous avons désormais une meilleure connaissance de Foucault au travail, mais là c'est peut-être pas le plus important de cette recherche. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé durant ces 2 jours et demi à faire intervenir dans ce colloque des expériences similaires sur d'autres auteurs. Ce type de travail permet en effet d'enrichir la connaissance des pratiques des grands lettrés de la période contemporaine, des figures qui sont encore mal connues, Christian Jacob nous l'a rappelé hier, d'où l'importance de ce que l'on peut appeler, ou de ce que j'appelle faute de mieux, une micro-histoire sociale qui entend approcher les comportements d'acteurs dans le cadre effectif de leurs pratiques et à travers leur trajectoire propre, et ce, afin de saisir les idées dans le cadre où elles ont été produites et de savoir ce qu'elles ont signifié en leur temps. C'est un peu tout ça qu'il faut rassembler. Cette réflexion nous a aussi permis de réfléchir, par exemple, à la phase de professionnalisation de la philosophie française après la Seconde Guerre mondiale, et comprendre, ou en tout cas essayer de mieux comprendre, le développement d'un certain style philosophique qui se définit par une plus grande porosité de la philosophie envers d'autres disciplines. Ça, c'est un élément aussi important. Enfin, l'ensemble de ce travail nous a permis d'apporter de nouveaux éléments pour essayer de cerner la question de ce qu'on appelle la créativité intellectuelle. Quels sont les moments où semblent apparaître de nouvelles idées? C'était la question, effectivement, qui était au cœur du travail hier de Patrick Boucheron, sur Duby. Quels sont les moments où semblent apparaître de nouvelles idées, de nouvelles figures de la vie philosophique, ou historique, ou sociologique, peu importe, de la pensée? Réflexion importante, puisqu'il semble, et on va essayer d'en démontrer aujourd'hui l'intérêt, réflexion importante, puisqu'il semble que l'originalité d'un produit textuel est liée à la méconnaissance de son, en grande partie liée à la méconnaissance de son processus de fabrication. Voilà, je vous remercie.
Questions peut-être.